Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective où nous allons faire un pas de côté pour faire la guerre à la guerre. Rien de moins, puisque nous nous inspirons ici du collectif pour tirer de notre potentiel individuel, qui était la saison 5, eh bien, une force beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante. Il se dit qu'il nous faut seulement 1000 amis pour renverser le monde et l'ordre établi de manière extrêmement subversive, pour ne pas me répéter. Eh bien, l'épisode précédent, synthétisé en quelques mots, c'était une manière de réfléchir et de déployer une stratégie pour atteindre ses ambitions. C'était la planification stratégique où il s'agit de définir à la fois une mission, une vision pour embarquer le monde, pour inspirer. Il s'agit d'y associer des objectifs. Ça peut être des objectifs de temps, des objectifs chiffrés pour les atteindre. Et puis de déployer tout un tas de moyens, de le faire de manière extrêmement agile parce que, comme on l'a vu par exemple avec le Covid, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, eh bien, en fonction des moyens que je déploie et des actualités du moment, je vais devoir me réaligner avec ce qui se passe réellement dans le monde. Je peux prévoir n'importe quoi, pour n'importe quand, de n'importe quelle façon, avec n'importe qui, que si à chaque fois tout le monde disparaît, que si à chaque fois il se passe des imprévus, que si à chaque fois je tombe malade et je deviens dans l'incapacité de me mobiliser pour cette fameuse mission que je me suis donnée, eh bien, en réalité, absolument rien n'aboutira si personne ne lève le petit doigt. C'était Mike Tyson qui disait « Everybody has a plan until they get punched in the mouth », pour ne pas dire « in the face ». Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se fasse frapper dans la bouche. Parole de boxeur, parole de champion. Eh bien, la planification stratégique dans cette partie 6, dans cette saison 6, elle est dédiée à une manière d'exploiter la conscience collective. La conscience collective, je vais quand même redéfinir ce que c'est parce que c'est ce qui se passe en ce moment dans notre monde et qui, pour l'instant, est encore de l'ordre des signaux faibles, mais de plus en plus tangible. Ça veut dire que c'est de plus en plus perceptible. On le touche du doigt chaque jour un peu plus. C'est une transformation qui s'appelle une transformation humaniste. Et le philosophe Alain de Vulpian, par exemple, avec l'historienne Irène Dupont-Couturier, et tout un mouvement que eux ont mis en œuvre, en place, d'ailleurs de manière également stratégique, en rassemblant des sociologues de classe mondiale, en rassemblant des historiens, des philosophes, des anthropologues, des hauts dirigeants de nos sociétés françaises, européennes et internationales, beaucoup plus de manière globale en fin de compte, eh bien, ils ont mis le doigt sur quelque chose qui apparaît depuis déjà plus de 50 ans, presque 60 ans, selon les histoires, en tout cas partagées par Alain de Vulpian. Et pour le coup, il y a ce qui se passe en ce moment qui s'appelle la transformation humaniste positive, où notre humanité évolue. Notre capacité à être connectés les uns aux autres fait que, de fil en aiguille, eh bien, une nouvelle forme de conscience collective apparaît. Par exemple, le siècle dernier, c'était un siècle industriel, où nous avons, je dis nous, mais je n'ai pas né, où nous avons eu une relation beaucoup plus transactionnelle à la performance, où on a parlé beaucoup de performance, de productivité, d'efficacité. On a inventé tout un tas de méthodes pour développer notre productivité. Le continent asiatique a servi de mine d'or à ce sujet pour externaliser les ressources, pour être capable de faire des économies d'échelle, pour produire, pour accompagner des besoins financiers et de développement d'autres pays comme ceux en Europe, par exemple, comme ceux en Amérique du Nord, comme ceux du côté de l'Asie également, en interne. On le voit aujourd'hui avec les puissances émergentes ou les plus grandes puissances du monde que sont la Chine, l'Inde, la Russie, quelques pays d'Europe, l'Allemagne par exemple, la France, les États-Unis, mais il y a quand même des écarts de richesse absolument phénoménaux. Toujours est-il que quelque chose qui est partagé par l'ensemble de ces pays qui sont classés avec des curseurs quand même assez éloignés les uns des autres, même sur, parce que ce ne sont pas les mêmes niveaux de richesse, donc c'est comparable mais difficilement ajustable. Eh bien, ce qui se passe, c'est que notre capacité à être connecté désormais depuis l'émergence d'Internet fait se réveiller ce qu'il y a en nous de plus animal en tant qu'animal social. Et je vous invite à lire Sapiens, par exemple. Je vous invite à lire également Le Cygne Noir, je vous invite à lire L'Âge de la Connaissance, je vous invite à lire beaucoup d'articles qui ont été produits par le philosophe Alain de Vulpian et Irène Dupont-Couturier, et qui mettent en avant, contrairement à cette relation très transactionnelle à la performance, eh bien une dynamique socio-perceptive, émotionnelle, sensorielle, qui fait que, je disais ça ce matin, peut-être qu'un jour les hypersensibles domineront le monde. Alors, je n'en suis pas certain, mais qui fait surtout que notre conscience collective est en plein éveil. C'est ce qu'on appelle la métamorphose humaniste. La métamorphose, exactement comme la chenille se transforme en papillon, c'est un processus naturel qui permet à un animal, en l'occurrence la chenille, une fois qu'elle s'est bien gavée, de ne pas mourir, de s'abriter à sa manière et de se transformer pour aller vivre d'une façon beaucoup plus éclatante. C'est une prolongation de vie quelque part. Alors, les papillons derrière ont une vie très éphémère. Mais ce qui pourrait se passer en ce moment, eh bien, ça serait sensiblement la même chose. Nous arrivons dans une période de stress pour l'humanité où beaucoup de choses se mélangent. Les climats de tension, la guerre pour le climat, ce qui fait une certaine redondance, mais l'ordre des mots a son importance. L'évolution néolibéralisme, l'évolution économique du monde, l'évolution de la société, l'écart de richesse croissant entre les très riches qui sont des ultra riches et les très pauvres qui sont des ultra pauvres. Pourtant, l'accès à la connaissance partout dans le monde grâce à Internet, ou presque partout, il y a encore quelques zones blanches, ne serait-ce qu'en France par exemple. Et nous sommes en train d'évoluer d'un stade de chenille en ce moment avec un cocon qui est lui difficilement palpable contrairement à cette chrysalide de la chenille, mais qui existe, qui a le mérite d'exister et qui fait que petit à petit on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas forcément spécial individuellement et que dans une culture mondiale qui prône l'individualisme et la performance individuelle comme moteur de réussite, arriver dans un espace où le collectif est une nouvelle norme, ça crée de la tension. Ça crée beaucoup d'attention et de tension. C'est comme si vous aviez fait un faux mouvement tout d'un coup et que vous vous rendiez compte que vous ne vous êtes pas du tout échauffé. Et en voulant partir trop vite, vous avez dérapé, un peu comme si vous vouliez courir sur une patinoire pour vous élancer. Ce serait une belle rigolade sûrement. Eh bien, nous arrivons à un point de 1, qui est un point de non-retour. C'est plus possible de revenir en arrière, à moins qu'il y ait une sorte de grand reset, et c'est une théorie qui circule. Le grand reset étant aussi promu par exemple par les collapsologues, qui est une manière de se dire « Ok, on revient tous à zéro, plus de technologie, plus rien, plus d'internet, plus d'électricité, plus d'argent, plus que dalle. On revient absolument à zéro et on peut renaître. » Les collapsologues promeuvent le fait que l'humanité va arriver à son déclin sous peu du fait d'une sorte de surenchère continue depuis des centaines d'années. Et d'autres, comme les humanistes par exemple, et je ne parle pas des transhumanistes, je parle uniquement des humanistes, se disent que justement c'est l'occasion de faire le meilleur des mondes. Profitons de cette période de conscience collective, d'apparition de la conscience collective, pour faire en sorte de progresser, de faire que l'humanité progresse. Alors, il y a des philosophes et des grands penseurs qui sont aussi des penseurs acteurs, qui font le monde de demain, qui parlent de conservatisme progressiste, où il s'agit de faire les deux choses à la fois, tirer parti du meilleur du passé, profiter du passé, et faire en sorte de construire un futur nouveau avec ces éléments. On ne rejette rien du passé, on apprend du passé. Et c'est là où il y a des modèles mentaux qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, parce que nous sommes capables d'envisager le futur des possibles de manière absolument incroyable, illimitée. Regardez par exemple ce que peut faire un Elon Musk en envoyant bientôt des humains sur Mars. C'est possible. À la base, lui, il n'avait jamais construit de fusée. C'est juste un mec qui rêve et qui bosse. Et qui bosse 5 fois plus que tout le monde. qui a en plus une capacité à jongler avec des produits, comme avec de l'argent, comme avec de la crypto-monnaie, comme avec l'influence. Enfin, c'est un inventeur. Et justement, les humanistes sont des personnes comme Musk. Mais pas forcément à l'échelle de Musk. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui, grosso modo, qui s'inspire. Ceux qui s'inspirent du passé, parce que les humanistes, historiquement, sont des érudits de la Renaissance. Et ils s'étaient dit, pendant l'Antiquité, il y avait un culte de l'esprit et de l'humain qui était absolument incroyable, où on faisait la promotion d'un mélange des genres pour devenir le meilleur humain qui soit, quelque part. Le sport, les jeux, la lecture, la réflexion, le fait de devenir bon et d'étudier pour devenir bon, le fait d'être un bon citoyen, d'être une sorte de meilleure version de soi. C'était pas réservé uniquement qu'aux riches. Même si de fil en aiguille, eh bien, c'est quelque chose qui, encore une fois, et comme l'humanité comme l'histoire plutôt l'a souvent répété, c'est quelque chose qui a fini par créer une fracture sociale. Les humanistes étaient des érudits de la Renaissance qui s'inspiraient des auteurs antiques et qui ont été de fervents défenseurs et promoteurs de la dignité de l'esprit humain. Ça veut dire quoi ? C'était des savants, des artistes, des religieux, un mélange des genres en fin de compte, mais qui voulaient vivre, qui voulaient rompre avec la période passée, et pour le coup c'était entre le 15e et 16e siècle au niveau de la période de la Renaissance, qui voulaient rompre avec le Moyen-Âge et avec sa manière de penser. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Rebelote. Je fais un raccourci, mais c'est exactement ça. Exactement, j'en sais rien d'ailleurs, mais on peut observer que c'est ça. Et si la formule pour l'exprimer ne me vient pas forcément de manière extrêmement exacte, précise, pour le dire, j'affirme cette conviction que nous sommes en train de revivre un moment du passé qui a déjà eu lieu, mais dans un autre temps, dans un autre moment, avec d'autres personnes, tout simplement. Et on l'a exploré d'ailleurs dans les épisodes 265 à 280 quasiment, avec la loi de la vitesse de l'innovation, l'expression des idées, les mouvements perpétuels, les voyageurs du temps, les arborescences, les fées ricochets, les miroirs temporels, les routes de l'exponentiel, l'ouverture possible vers l'universalité, avec un épisode spécial dédié au Big Data et à l'intelligence artificielle, parce que tout ça se mesure aujourd'hui avec la donnée, ce qui n'avait jamais pu être fait à cette échelle auparavant. Nous n'avions que la capacité de l'homme à rassembler de l'information et pour en faire de la connaissance et en faire finalement de la compétence reposant sur de petits groupes de personnes qui sont nos chefs d'État, les dirigeants politiques, les dirigeants des armées, les responsables institutionnel, mais tout en haut de la pyramide, parce que ça, c'est comme ça que fonctionne le monde. C'est une pyramide, et dedans, il y a d'autres matrices qui font qu'on peut déployer des techniques d'influence pour agir ci et là, etc. Mais les réseaux parallèles, par exemple, ont été étudiés par de nombreux chercheurs pendant le siècle dernier. Le networking, d'ailleurs, étant probablement une des armes les plus puissantes du monde à partir du moment où vous maîtrisez la communication. Et je vous invite à lire Dale Carnegie sans le prendre de haut à travers ses ouvrages comme « Comment se faire des amis », par exemple, puisque c'est un des fondements de la connaissance qui nous permet de faire circuler l'information d'une personne à une autre, en capitalisant au maximum sur l'efficience des mots que nous utilisons via les relais que nous employons, les relais personnels. Donc, pour revenir à cette notion de savants, d'artistes et de religieux qui voulaient rompre avec leur temps et notamment avec le Moyen-Âge, aujourd'hui, nous avons d'autres personnalités. J'hésite à citer Greta Thunberg parce que je ne sais pas si on pourrait la classer dans cette catégorie et en faire une catégorie à part entière. Mais il y a de nombreuses personnes qui s'inscrivent dans une démarche de rupture avec le siècle passé, avec le siècle de l'industrie. Et nous sommes en train de vivre une troisième, voire une quatrième révolution industrielle quasiment fondue l'une à l'autre. Et la quatrième révolution industrielle étant celle notamment de la mobilité avec l'essor des technologies de l'information. Une révolution industrielle et parler de révolution de la mobilité en même temps étant quasiment confondue puisque la mobilité... L'évolution de la mobilité fait partie de ce qu'on peut appeler une révolution industrielle. Eh bien, quand on prend des points de repère liés à l'admiration du passé et de ce que faisaient nos ancêtres et les anciens, je vais prendre les Grecs en exemple parce que ça vient souvent d'eux, quand on les prend comme modèle, comme référence plutôt, pour se dire « élevons notre esprit, élevons notre corps », à un beaucoup plus haut rang qui nous permet d'exprimer l'intelligence illimitée de l'homme avec un grand H, en prenant la recherche, le partage, la diffusion du savoir, la liberté, etc., etc., eh bien, on se rend compte qu'on vit essentiellement une transformation humaniste. C'est un mouvement intellectuel, c'est un mouvement culturel. Et pour le coup, il est globalisé. Il existe au Canada, il existe en Espagne, il existe en Lituanie, il existe en Pologne, il existe en Nouvelle-Calédonie, il existe au Japon. Ça ne veut pas dire qu'il est nommé. Ça ne veut pas dire qu'il est nommé de la même manière. Ça veut dire que des personnes font un même état des lieux de ce qui se passe en ce moment, et exprime en retour, action-réaction, eh bien une conception nouvelle de ce qu'est leur idéal de vie. Et ce nouvel idéal de vie est en rupture avec le passé, avec le siècle dernier, avec ce qui se passe depuis des décennies, qui promeut une relation très transactionnelle à la performance, basée sur la responsabilité individuelle, l'effacement de l'ego, il y a un travail très profond qui est fait sur ça, l'effacement de notre pouvoir de décision sur la domestication des pensées. Aujourd'hui, même sur la domestication de nos émotions, et je parle de domestication comme on élèverait un chien, c'est exactement le travail qui est fait de manière médiatisée, de manière volontaire, par tout un tas d'institutions qui œuvrent ensemble pour faire de la masse un vrai troupeau de moutons. Et c'est comme ça que ça se passe. Et vouloir dire « je ne fais pas partie de ce troupeau de moutons » est insuffisant pour ne pas en faire partie. La difficulté étant, et j'en avais parlé dans un autre épisode, dont le nom ne me revient plus nécessairement en tête, mais on revient à la saison 1 liée à la bestialité, parce que c'est souvent la posture radicale qui est promue comme le moyen ultime de faire face. Il faut s'engager de manière extrême et radicale, tranchée, pour montrer à quel point on veut la cassure. Alors, j'ai envie de vous dire à fond. J'ai envie de vous dire à fond. Mais de manière réfléchie. Pourquoi à fond ? À fond parce que le monde ne bouge pas avec des demi-mesures. À fond parce que quand on veut que ça bouge, quand on veut que ça bouge profondément et de manière massive, on agit de manière tranchée, en rupture. Parce que c'est comme ça qu'on se fait ces fameux 1000 amis qui nous permettent de renverser le monde quelque part. C'est ce qu'il se dit en tout cas, que grâce à... Il nous faudra en moyenne 6... Nous sommes à une distance en réalité de 6 personnes par rapport à la personne la plus éloignée du monde de nous, en moyenne. Si vous deviez faire une chaîne humaine pour parler à la personne la plus éloignée de vous sur la planète, il faudrait en moyenne un maximum de 6 personnes. Parce que nous sommes quasiment 7 milliards. C'est ce qui ressort des études de l'université de Stanford, grâce à l'étude des réseaux du coup de personnes et d'un peu de mathématiques statistiques. Eh bien, ça, transposé au monde réel, ça voudrait dire que avec une troupe de 1000 personnes, vous seriez capable de toucher n'importe qui sur cette planète, potentiellement, pour diffuser vos idées. Et que si vous arrivez à réunir 1000 fans, 1000 fans engagés, 1000 personnes, 1000 psychopathes qui sont prêts à parler de vous, à vous défendre, à défendre vos idées, sans bien même que ce soit forcément vous, eh bien, il se peut que votre mouvement devienne un mouvement de classe mondiale. Ça, c'est tout à fait remarquable. Mais attention, repensons à l'étude Gallup, une étude qui traite du bien-être au travail et de l'engagement. Eh bien, repensons à l'engagement. L'engagement, c'est quoi ? C'est 3 classes de population. La première, ce sont ceux qui ont le frein à main enclenché. Absolument pas, j'irai jamais dans cette direction. Paf, vous pouvez forcer que moi, je mets le frein à main. Maintenant, il faut rouler avec le frein à main. Et donc, il y en a 3 sur 10, des comme ça. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Ceux qui vont rouler. Juste, ils vont rouler. Ils vont pas mettre l'accélérateur, mais ils vont certainement pas freiner. Tant qu'il y a de l'essence, on roule. Ça, c'est la majorité des gens. Et c'est vachement bien. Ils sont 6 sur 10. C'est ceux qui se lèvent tous les matins. Qui se lavent. Qui emmènent leurs enfants à l'école. Qui vont bosser. Et qui reviennent chez eux. Ils n'ont pas transformé le monde, ils y ont contribué. Donc, d'une certaine manière, ils ont transformé le monde. Mais ils ont contribué à faire de leur journée une journée correcte, une bonne journée. C'est monsieur et madame tout le monde. Et puis, il y a une dernière catégorie de personnes qui représente 10% de la population, 1 sur 10, qui elle est engagée, produit plus de richesses, donne plus d'idées, donne plus de sa personne. Fait plus d'efforts. C'est ce qu'on appelle être engagé dans quelque chose. T. Harv Eker, dans son livre, dans un de ses bouquins, et puis même, enfin, c'est même pas l'occasion de citer un de ses livres, c'est plus l'occasion de citer la définition de T. Harv Eker, qui est un auteur, conférencier, entrepreneur à succès, et qui dit comme ça que être engagé, c'est se donner corps et âme pour atteindre ses objectifs. Et faire de sa mission quelque chose de concret. Je reviens à Elon Musk. Elon Musk est quelqu'un d'engagé qui se donne corps et âme et qui serait prêt à arrêter de manger s'il trouvait une autre manière que de pouvoir se sustenter et survivre. Il serait prêt à arrêter de manger pour être capable de plus bosser et d'aller plus vite dans ses projets. C'est ce qu'on appelle être engagé. Engagé. Êtes-vous engagé ? Avez-vous un projet comme ça ? Un projet perso ? Un projet... Ou le projet de perso de quelqu'un d'autre ? Eh bien, dans l'épisode d'hier qui était la planification stratégique, c'est l'épisode précédent, c'est le numéro 288, être engagé vous permettrait de faire, par exemple, ce que vous avez prévu d'accomplir en 1 an, en 2 ans, et bien peut-être en 3 mois, en 4 mois, en 6 mois. Alors, il y a... des choses qui ne dépendent pas de vous, auquel cas vous avez affaire à ce qui s'appelle l'ownership, ce qu'on pourrait traduire comme la responsabilité individuelle, à quel point vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Vous ne pouvez pas déléguer cette responsabilité, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas totalement agir, et qui sont hors de votre portée, donc qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues à un moment ou un autre. Mais tout ce que vous pouvez faire, et qu'il est possible de maîtriser, de contrôler dans votre écosystème, repose sur votre capacité justement à le faire. Et répond à cette problématique d'engagement. En tout cas, apporte une réponse partielle. Donc si je reviens à ce qu'est un humaniste, c'est quelqu'un qui pense que les hommes ont leur destin en main, d'une certaine manière, qu'ils doivent construire par eux-mêmes le monde dans lequel ils vivent, être tolérants avec les autres, libres de leurs actes, sans se référer à une puissance extérieure, religieuse, surnaturelle ou politique. L'être humain qui croirait en l'être humain et en son intelligence infinie. En 16 intelligences infinies. Nous n'avons pas qu'une forme d'intelligence. Quoique l'intelligence humaine serait la combinaison des intelligences de l'homme. À la fois à échelle individuelle et à échelle collective. Et c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui notre société, la société comme un cerveau. Une société qui opère sous la forme d'un réseau de neurones avec des échanges d'informations d'un point à un autre. Et nous, en tant que personnes, nous sommes ces fameux neurones, ces zones de connexion. Et nous transportons l'information par notre parole, par nos gestes, par notre corps, par nos moyens de communication. Ça peut être mon téléphone que j'ai entre les mains en ce moment, votre tablette, un ordinateur, un email, un courrier postal, tout ce qui fait que vous allez communiquer avec l'extérieur, depuis votre monde intérieur, d'abord avec votre réseau de premier niveau, les amis proches, puis réseau de second niveau, les amis, les connaissances, puis réseau de troisième niveau, les relais liés à vos connaissances, et puis comme ça, ça forme des villes qui communiquent entre elles, et puis des pays qui communiquent entre eux, des continents, etc., etc. Et bien, une fois qu'on en est arrivé là, on en revient à l'âge de la connaissance. Récupérer le sens des mots pour parvenir à l'intelligence des textes, des savoirs, des doctrines. Je vous ai parlé de la doctrine il n'y a pas très longtemps, à travers l'unification, à travers l'ultime gardien, en faisant référence à, par exemple, à la religion bouddhiste, à la religion, à l'hindouisme, à la religion musulmane, à la religion chrétienne. Ce sont des doctrines systématiques qui sont des doctrines dont les textes d'origine sont absolument fantastiques. Ce sont des textes relativement merveilleux, devant lesquels on a la possibilité de rester la bouche ouverte en comprenant à quel point ces textes sont beaux, et d'une certaine manière intelligents. Parce que l'intelligence, c'est la capacité à performer finalement dans la nature. Et quand on voit qu'une Bible a été vendue à des milliards d'exemplaires, quand on voit que les religions existent depuis des millénaires, eh bien oui, les personnes qui ont écrit ça sont douées d'intelligence, parce que l'intelligence survit à la nature. Eh bien, l'éducation humaine... Là où je voulais en arriver, c'était que j'avais pris comme exemple, je crois c'était la religion bouddhiste, comme doctrine, en prenant appui sur les écrits de Hermann Hesse et dans son ouvrage Siddhartha, que je vous invite sincèrement à découvrir, et dans lequel il y a de très nombreux niveaux de lecture dans lesquels on peut se plonger, avec un parallèle, pourquoi pas, avec Idriss Eberkane et l'âge de la connaissance. La doctrine dans Siddhartha, c'était en prenant exemple sur Bouddha, qui avait une vision tellement parfaite et respirait tellement la perfection que il était devenu le saint adulé, admiré, auprès duquel les personnes viennent chercher la mission de leur vie, le réconfort, la reconnaissance, la connaissance, la spiritualité, ils viennent chercher des réponses quelque part à travers cette doctrine. Et cette doctrine est suffisamment magnifique à leurs yeux pour qu'ils l'adoptent et y adhèrent toute leur vie. Le point de vue de Siddhartha dans cet ouvrage, et c'est ma compréhension à ce moment-là, maintenant, là, c'est qu'il n'a pas accepté cette doctrine parce que c'était pas la sienne. Et il l'a trouvée absolument fantastique, géniale, merveilleuse. Mais ça ne restait qu'une doctrine de quelqu'un d'autre, extrêmement égoïste, suffisamment égoïste pour la partager avec tous. Et de faire en sorte, sans qu'il y ait à y forcer, que les autres y adhèrent malgré eux. Et c'est un paradoxe très profond lié à l'ego, lié à l'être humain. Toujours est-il que, pour Siddhartha, cette doctrine n'était qu'un élément parmi d'autres éléments. Ce qui me fait penser d'ailleurs à cette citation de l'armée américaine, je fais un grand écart, attention à la déchirure, ce qui me fait penser à cette citation qui dit que l'armée américaine est une équipe d'équipes, au pluriel. Eh bien, le monde aujourd'hui fonctionne exactement comme cela. Seulement, pour être une équipe, faut-il avoir créé l'environnement qui permet de concevoir des équipes, et non pas juste des personnes qui bossent ensemble dans un environnement où ils ne forment absolument une équipe, pas une équipe. Et donc, l'éducation humaniste est fondée sur la connaissance de la langue. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de Idrissa Berkane, puisque libérer votre cerveau et l'âge de la connaissance prône l'accès à l'information, la démocratisation de l'accès à l'information, la réflexion pour l'action, la connaissance de soi, la connaissance des autres, la connaissance des mots, la compréhension de tout ceci, pour le transformer en compétence. Passer de l'information à la connaissance n'est plus suffisant, n'a jamais été suffisant. Mais compte tenu de notre accès à l'information aujourd'hui, à n'importe quel moment, depuis n'importe quel endroit, avec n'importe qui, partout dans le monde, sous réserve d'une connexion Internet, c'est prendre un gros risque que de ne pas apprendre et que de ne pas transférer cette information traduite en compétence, traduite en connaissance, en compétence dans le monde réel. Le monde n'évolue que grâce à des gens compétents et incompétents qui ont essayé de faire passer un... Mais l'incompétence reste une forme de compétence exprimée différemment par rapport à des gens qui seraient compétents. Donc, cela étant, c'est pouvoir revenir à des fondamentaux peut-être plus littéraires liés à la connaissance de la langue. Ça veut dire parler d'authenticité dans les mots, en même temps les comprendre, être en mesure de les utiliser sans qu'ils soient galvaudés. Et ça, le fait est que la circulation de certains mots, les modes de mots, les modes de... Je sais pas, je vais prendre le management. Le management agile. J'en connais des managers agiles, mais qui sont vraiment agiles, j'ai pas l'impression. La méthode agile. Quelqu'un qui m'a parlé d'une méthode agile était... C'est probablement une des personnes qui m'a parlé de la méthode agile qui était la plus rigide du monde. C'est complètement paradoxal, encore une fois. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, néanmoins, pour évoluer, il s'agit de se réapproprier ce qui fait l'essence même de son système. La base, c'est la communication. Et la communication, c'est pas juste « on cause ». Non, c'est « écouter ». Écouter. L'écoute, ce n'est pas entendre. Écouter permet de comprendre, permet de saisir au vol les bribes d'informations cachées dans un flot de phrases, comme je peux en faire par exemple, et qui nous permettent de dire « Ah, dans cette phrase, voilà ce qui est important. Voilà ce que la personne a voulu dire. Voilà ce sur quoi on devrait se pencher en ce moment. On peut se pencher en ce moment. » Et les textes qui nous proviennent de la Chine, je dirais, d'il y a plusieurs milliers d'années. Et je vous invite à lire « L'art de la persuasion » par Guy Guzzi, qui date d'il y a quand même un petit petit paquet d'années. Je ne sais plus exactement quelle est la période, mais c'était plusieurs siècles avant notre, avant l'ère chrétienne, avant la naissance de, enfin, avant la, la naissance de Jésus-Christ, et qui disait clairement que les mots sont l'arme la plus puissante, et que les personnes qui parlent trop ou beaucoup ne se respectent pas par défaut, parce qu'ils emploient beaucoup trop de mots qui est leur moyen de qui est le moyen de communiquer le plus glorieux quelque part, le plus sublime, le plus magnifique. La possibilité d'échanger des mots, que ce soit d'ailleurs de manière vocalisée par notre bouche ou bien par les mains si pour les personnes qui sont muettes, c'est une des manières les plus nobles que de s'exprimer et d'arriver à agir avec les autres. On en revient à cette notion d'humaniste, parce que l'humaniste est une incarnation d'une sorte d'idéal. Seulement, il y a un hic. Pour établir un pacte humaniste, un pacte étant un contrat social extrêmement fort, beaucoup plus que simplement qu'une simple relation. Un pacte, par exemple, oui voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce qui est utilisé maintenant pour redésigner un pacte, c'est une convention. Seulement, la convention n'attache pas la notion de validité ou d'invalidité par rapport à ce qui est mis en place. Et on parle de convention entre États, on parle de convention bilatérale. Donc on ne parle plus de pacte. On parle de convention pour désigner un pacte. Mais le pacte, à la base, désigne un accord. Donc, on peut s'y retrouver. Néanmoins, ce qu'il représente a un peu glissé vers le... Chacun l'utilise comme bon lui semble. C'est plus flexible. Peut-être plus agile, d'ailleurs. Eh bien, c'est la notion du pacte humaniste, aujourd'hui. C'est qu'il y a un réseau d'intellectuels humanistes aujourd'hui, dans notre ère, dans notre temps, qui vivent là en ce moment. Et des intellectuels, ça peut être... ce ne sont pas forcément des érudits, ce n'est pas que l'Académie française. Ce sont des personnes qui se sont instruites, qui ont acquis une certaine sagesse par l'expérience. Et on peut acquérir une certaine sagesse en étant jeune. Ce seront des sagesses différentes, comme il existe des intelligences différentes. Repensons à cet épisode dédié aux divergences, aux intelligences multiples. Eh bien, le risque, il est qu'on fasse exactement comme à la période de la Renaissance. C'est qu'il y ait une forme d'éveil associée à la diffusion de la culture en masse, associée à l'éveil philosophique des populations. Mais que cet éveil ne s'essouffle, que cet éveil ne s'estompe, que cet éveil ne soit pas compris, ne soit pas bien communiqué. Tout simplement parce que nous n'avons pas tous ni les mêmes attentes, ni les mêmes besoins, ni les mêmes mots pour exprimer ces attentes et ces besoins, ni les mêmes centres d'intérêt, et que simplement dire « Venez !» On devient tous la meilleure version de nous-mêmes, individuellement et collectivement parlant. Mais vous voulez que ça parle à qui? Ça, c'est une contradiction profonde de ce que l'on veut et de ce qu'on est capable de faire, entre ce que l'on veut et ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que on peut avoir les meilleures intentions du monde, la meilleure solution du monde, que je repenserai à Schopenhauer, qui écrivait « L'art d'avoir toujours raison ». On s'en fout de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. Il s'agit d'être capable de le communiquer. Et que si on ne peut communiquer une idée pour la partager au plus grand nombre, cette idée meurt. Et elle reviendra à un autre moment plus mature pour elle, parce qu'elle ne disparaîtra pas totalement. Elle laissera quand même une marque dans l'histoire. Et bien, c'est ce qui s'est passé avec cette première transformation humaniste à l'âge de la, en période de la Renaissance, c'est que cette volonté de tirer l'humanité de l'avant, poussée et portée par des intellectuels en rupture avec le monde quelque part, parce que dans des environnements pas très ouverts, semi-ouverts et finalement assez convergents, ont étouffé leurs idées, n'a pas permis au monde de se l'approprier. C'est resté un petit peu comme un jardin secret que l'on peut voir de loin mais qui n'intéresse plus grand monde. Et ça a fini par donner même l'effet inverse. Le contre-courant de cette période a été une période beaucoup plus sombre, beaucoup moins propice à l'émergence de cette idée qui du coup s'en est vue complètement moquée, assez fait chahuter grosso modo. Et bien ce qui se passe en ce moment, c'est à peu près la même chose. Je dis à peu près parce que c'est difficile d'en dessiner les contours, c'est difficile de la décrire, c'est un travail qui est simplexe, c'est de la simplicité et du complexe, et donc pour arriver à mettre tout ça en œuvre, eh bien il faut quand même avoir un certain niveau de connaissance, même si on peut laisser passer, parler notre intuition, même si on peut imaginer, décrire plein de choses, pour être capable de l'observer, il faut pouvoir passer par des faits et de la description. Et donc on en revient à cette notion de phénoménologie qui est la science de ce qui se passe quelque part. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'établir un pacte humaniste, c'est-à-dire une sorte de contrat social, d'engagement profond et d'un accord, et non pas seulement d'une convention, mais d'un accord multilatéral entre de nombreuses sociétés, de nombreuses organisations, de nombreux environnements qui s'engageraient, donc qui se voueraient, qui se dédieraient corps et âme au respect de ce pacte pour faire que la société se transforme et que puisse se faire cette transformation humaniste. Et c'est pour ça que j'appelle cet épisode le pacte humaniste, parce que ce serait un moyen possible pour que cette fois, ça ne s'essouffle pas. Seulement, au même titre que par le passé, j'observe que ce mouvement est considéré, encore une fois, par un petit groupe d'intellectuels qui ne sont que très peu connus du grand public, qui ont une influence certaine sur les courants de pensée et pourquoi pas les choix politiques, donc, et même même l'évolution de la science à ce sujet, etc. Mais qui ne sont là quelque part que pour amuser, distraire le peuple de leur présence, parce qu'ils ne sont pas et ils ne sont plus monsieur et madame tout le monde. Être en mesure de parler des gens ordinaires pour décrire des personnes comme vous et moi, même pour s'autodécrire, c'est déjà ne plus se considérer comme faisant partie des gens ordinaires. Parce que les mots sont trop bien choisis par rapport à l'usage de ces mots. Dites-moi que je suis quelqu'un d'ordinaire, que je ne vous croirais pas et je refuserais d'admettre cette idée. Et j'aurais une pensée à Pierre Rabhi à ce sujet, parce que Pierre Rabhi disait la chose suivante, je vais paraphraser parce que j'ai plus sa citation exacte, mais que grosso modo, notre société ne souffre pas. Et pour pouvoir transformer la société, lui écoute son corps pour savoir où ça lui fait mal. Et c'est exactement toute la difficulté qu'il y a de s'imprégner d'un sujet en sachant pourquoi est-ce que ça nous fait mal et où, alors que ça se passe à des niveaux stratosphériques de décision par rapport à notre échelle. Eh bien, le pacte humaniste serait un moyen de contrecarrer cette problématique, sous réserve que que ça ne soit pas conservé par un tout petit nombre, certes passionnés, certes qui se dédient à cette cause, mais qui n'est pas engagé au sens se dévouer corps et âme, parce que l'engagement n'est pas une appropriation du sujet. Et vouloir le transposer au plus grand nombre en rassemblant uniquement les élites, ou en ne permettant pas en tout cas à d'autres de s'y attacher, en parlant par exemple de gens ordinaires, ce qui est tout à fait, encore une fois, décidément ça va être le mot de la journée, paradoxal, eh bien, est un problème fondamental en soi. Parce que le niveau d'ouverture d'esprit et le niveau d'exigence sociale d'utiliser de tels mots si simples est surévalué par rapport à la capacité réelle des gens ordinaires de se saisir de ces mots. C'est fou, non ? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite à partager vos idées sur l'application Encore par Spotify que j'utilise pour produire ce podcast. Je vous invite à commenter également l'épisode du 289 sur le compte Instagram, puisqu'il sera illustré d'une nouvelle publication, ou à me partager vos retours, eh bien, soit par écrit, soit à l'oral, aussi en message privé. Demain, dans l'épisode prochain, après cet épisode dédié au pacte humaniste et à ce qui pourrait être à nouveau, et j'embêterai quasiment ma main à couper parce que l'histoire se répète, mais ce qui pourrait être à nouveau justement une répétition de l'histoire, nous amène sur le terrain de l'évangélisation dès demain. À la fois, oui, pour nous intéresser à ce qu'il est possible de faire et à ce qu'on appelle un évangéliste qui promeut la bonne parole, prêche la bonne parole à travers le monde, que ce soit religieux ou pas, d'ailleurs. Et nous passerons ensuite à l'éveil. Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée !